This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, 1960, pour ce qui concerne la France, la situation est extrêmement tendue. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie, les événements comme on les appelle, puisque jamais le terme de guerre ne sera prononcé, et pourtant les choses ne s'arrangent pas, bien au contraire. En cette année 1960, il va se passer un événement très marquant, c'est-à-dire que pendant une semaine, il va y avoir un soulèvement à Alger et des barricades vont être construites et un affrontement va avoir lieu entre le pouvoir et l'ensemble des gens qui résistent en Algérie. La situation est compliquée parce qu'il y a d'un côté le FLN qui donc revendique l'indépendance de l'Algérie et de l'autre côté, il y a entre le FLN et la France, il y a des gens qui, eux, revendiquent le maintien de l'Algérie française. Tout ceci repose sur un malentendu. Il se trouve que lorsque le général de Gaulle, alors président de la République, se rend à Alger à plusieurs reprises, il ne dément jamais l'idée que l'Algérie va rester française. Sauf que, peu à peu, et probablement que dans sa tête, les choses étaient déjà acquises, il sait que la marche de la décolonisation est irréversible et que l'indépendance est au bout du chemin. Donc après s'être appuyé sur des gens qui sont plutôt favorables à l'Algérie française, notamment les généraux qui sont en Algérie en particulier, eh bien le général de Gaulle va peu à peu faire évoluer sa théorie et va aller vers ce qu'il appellera l'autodétermination. Mais on n'en est pas encore là. Et les relations vont se tendre entre le président de la République et ses propres soutiens. Et c'est ainsi que des gens comme Jacques Soustelle ou Bernard Cornu-Gentil vont menacer à plusieurs reprises de quitter le gouvernement et de quitter le Premier ministre Michel Debré, qui est, on peut dire, l'inventeur de la Ve République. Le Premier ministre, qui d'ailleurs lui-même, à un moment, pourra, dans l'année 1960, va menacer aussi de démissionner, même si il ne mettra jamais son idée à exécution, tant il est vrai qu'il est un des fidèles, parmi les fidèles, du général de Gaulle. Alors, entre le 24 janvier et le 1er février, donc un soulèvement va avoir lieu, et c'est ce qu'on appelle la semaine des barricades à Alger.
1960. Depuis 24 heures, les barricades se multiplient dans les rues d'Alger. Les manifestants européens et les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu. L'émeute a fait près de 20 morts. En ce mois de janvier, il est clair que le général de Gaulle ne reviendra pas sur sa décision de laisser les Algériens décider eux-mêmes de leur avenir. La perspective de l'autodétermination a exaspéré les Français d'Algérie. Le limogeage récent du général Massu a mis le feu aux poudres. Menés par les ultras, ils sont entrés en rébellion ouverte. Le 25 janvier, le président de la République prend la parole.
De leur fait, une rupture de l'unité nationale risque de se réaliser à l'indignation de la nation française et au beau milieu des combats livrés contre les rebelles. Il n'y a pas un homme de bon sens qui ne voit quelles conséquences risquerait de se produire si cette affreuse sécession l'emportait.
Cette première intervention du président de la République ne sera pas entendue par les insurgés. La confrontation continue à Alger et elle se répercute en métropole. Le gouvernement est divisé entre partisans et adversaires du recours à la force. Le 26, on parlera même de la démission possible du Premier ministre, M. Michel Debré. Mais un mouvement de soutien assez exceptionnel se développe autour du général de Gaulle. L'UNR et la SFIO concluront même une alliance éphémère. Et dans son discours du 29, le chef de l'État réaffirme sa politique d'autodétermination. Les insurgés d'Alger sont de plus en plus isolés. Le mouvement s'effrite. Certains meneurs s'enfuient. Le dernier carré, mené par Pierre Lagaillard, le leader des étudiants algérois, capitule le 1er février. Pendant 8 jours, la Ve République a vécu sa première crise grave.
La seconde crise grave, évidemment, ce sera en 62, lorsque, comme les appelle le président de la République, un quarteron de général tentera un soulèvement et tentera une sorte de coup d'État qui ne réussira pas. Rappelons au passage que l'échec de cette tentative sera dû au fait que l'armée française qui est stationnée en Algérie est composée essentiellement d'appelés du contingent et que ces appelés-là ne sont pas du tout décidés à marcher contre Paris. On voit par là qu'une armée constituée de conscrits est beaucoup moins facile à manier qu'une armée de professionnels. Et je vous signale par ailleurs que nous avons supprimé l'armée de conscrits puisque le service national a été supprimé et qu'aujourd'hui, l'armée française est une armée de métier. Alors, je ne veux pas dire par là qu'une armée de métier est nécessairement une armée subversive, mais en tout cas, dans tous les pays du monde, les armées de métier sont celles qui font les coups d'État. Fermons la parenthèse et revenons à 1960. Alors, évidemment, la guerre elle-même, en dehors de cette semaine des barricades, continue. L'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au gouvernement de Michel Debré, donc par là même au président de la République. Et la lutte contre les membres du FLN continue bien évidemment. Le 24 février, on arrête les principaux responsables du FLN en métropole et notamment les membres du réseau Janson. Alors le réseau Janson, Francis Janson, était un professeur de philosophie qui s'était engagé dans l'aide au réseau dit terroriste. Mais alors là encore, il faudrait revenir sur quelle est la définition de terrorisme. Est-ce que ça s'appliquait bien? En tout cas, pour Francis Janson, ça n'était pas des terroristes. C'était des gens qui revendiquaient une indépendance normale et souhaitable. Et donc, Francis Janson avait organisé un réseau dit que l'on a appelé des porteurs de valises. Parce qu'en réalité, il diffusait des informations, des tracts, le tout dans des petites valises dans les transports en public. Et donc, Francis Janson publie donc au mois de juin 1960 un livre intitulé « Notre guerre » aux éditions de Minuit. Éditions de Minuit qui ont une certaine habitude de publier des textes difficiles et en tout cas en temps de guerre, puisque c'est eux qui ont publié « Le silence de la mer » pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'année 44, qui est le sommet quand même de la guerre. Et lequel livre, évidemment, est interdit. Donc, deuxième livre publié aux éditions Minuit interdit, « Notre guerre » de Francis Janson, qui explique et argumente sur son action de soutien au FLN. Le livre sera immédiatement interdit et saisi, ce qui, on ne se rend pas compte aujourd'hui ce que ça signifie, mais donc le livre qui est diffusé dans les librairies, chaque libraire voit arriver dans sa librairie des forces de police qui viennent saisir, manu militari, si j'ose dire, le livre qui est déjà en pile sur les tables. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, ça a l'air d'une fiction. Ça a l'air d'une fiction et en même temps, à cause des événements et de la loi qui se profile, loi dite antiterroriste, eh bien, on pourrait peut-être, dans certaines dérives, réassister à ce genre de choses. Bref. La situation empire et elle ne cessera d'empirer jusqu'à ce que finalement les accords d'Évian, mais lointains encore, viennent régler la question de l'Algérie et donc le problème de l'indépendance. Le général de Gaulle d'ailleurs, au mois de mars, fera une inspection de 3 jours au cours de laquelle, ce qu'il appellera la tournée des popotes, au cours de laquelle il déclarera que la question algérienne ne peut être réglée que par l'autodétermination, sans ôter son soutien, bien sûr, à l'armée qui est présente. Alors, au cours de cette année 60, eh bien, il y a quelques événements significatifs et presque amusants. Sachez que c'est cette année-là que le franc devient le nouveau franc. Alors, ce qui veut dire que les gens qui ont un billet de 100 francs dans leur poche, eh bien, vont se retrouver avec l'équivalent de 1 franc. Ce qui provoque des mouvements divers, ce qui rappelle également le passage du franc à l'euro, puisque, et donc on passe à une monnaie qui évidemment devient de fait plus forte, mais on assiste aussi à ce moment-là à une augmentation des prix assez conséquente, exactement comme on a pu y assister quand on est passé à l'euro. Et c'est un moment de formidable explosion de la consommation, puisqu'on compte déjà, mais aujourd'hui ça fait sourire, on compte déjà sur l'ensemble du territoire 47 supermarchés et hypermarchés. Voilà. Ça n'était que le début de la vague qui allait se développer. On sait aujourd'hui à quel point, je pense que les 47 supermarchés, ça doit être le chiffre, est dépassé, ne serait-ce que pour une seule région. C'est aussi une année, alors plus gravement, c'est une année où la France fait exploser sa première bombe atomique. Le général de Gaulle est peut-être parce qu'il est militaire, et en tout cas parce qu'il a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, est très attaché à la force de frappe. C'est le pivot de toute sa politique internationale et extérieure. Il pense que sans force de frappe, la France n'est rien. Alors, à ce moment-là, les États-Unis ont, comme on dit, la bombe atomique. L'URSS a la bombe atomique. Et donc, le troisième pays à avoir la bombe atomique, eh bien, c'est la France. Et c'est ce qui va permettre à la France de maintenir au plan international une présence très, très importante et avoir ce que l'on appelle la force de dissuasion. C'est-à-dire que avoir la bombe, ce n'est pas l'avoir pour la faire exploser, mais c'est l'avoir pour menacer d'éventuels agresseurs de la faire exploser. Et donc c'est ce qu'on appelle le concept de dissuasion et qui donc explique que l'avoir, c'est l'avoir en termes de potentiel et de menace. Et c'est ça qui est censé nous protéger. En tout cas, c'est le fondement de la théorie de la dissuasion qui est encore en cours aujourd'hui, puisque si l'Iran veut avoir la bombe atomique et si l'Israël a la bombe atomique, c'est égal, c'est aussi dans le même esprit et à partir de la même théorie. Et donc le 13 février 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique sur le site d'Amoudia, près de Reggan, dans le Sahara algérien. Et le tir de cette bombe A, baptisée alors la gerboise bleue, on voit que le coq gaulois est encore très présent, ce tir est donc effectué du haut d'une tour de 100 mètres, ce qui fait que l'explosion contaminera une zone de 150 km de diamètre, probablement plus d'après les spécialistes. Alors le Maroc, qui est tout proche, va protester très énergiquement. Tout ça restera lettre morte pour le général de Gaulle, car cet essai met la France en situation de devenir donc la quatrième puissance atomique du monde. Évidemment, le général salue l'exploit, fait un discours à ce propos et indique que cet essai sera suivi et que la France poursuivra son exploration des moyens d'explosion atomique. Je signale qu'il y aura 210 autres explosions au total jusqu'à ce que la France ne signe le 24 septembre 1996 le traité d'interdiction complet des essais nucléaires aériens et souterrains. Donc, 60, quand je dis que c'est une année tournant, c'est effectivement le cas, puisque que ce soit en termes de société, que ce soit en termes d'évolution des mentalités, que ce soit en termes de puissance, de communication, les choses sont en train de changer. 60 est le point de basculement de tous ces événements. Et en matière de musique, c'est aussi un point de basculement. Je crois que depuis le début, depuis le premier épisode consacré à cette année 60, On le voit et on l'entend. Et alors, on va écouter un enregistrement. Alors, je prends quelques précautions avec cet enregistrement parce que c'est, disons, un des enregistrements fondateurs de ce que l'on appellera plus tard, quelques temps, pas tellement longtemps, mais quelques temps plus tard, le free jazz. J'ai dit dans les autres épisodes que John Coltrane était le chaînon qui expliquait le passage du bebop offrit, mais dans une attitude spirituelle, de réflexion profonde et assez peu technique au fond. Coltrane fait évoluer sa musique en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, notamment dans les revendications des Noirs avec, et dans sa fraternité avec Malcolm X. Le musicien qu'on va entendre, c'est Ornette Coleman. C'est un musicien pour musicien, presque on pourrait dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la musique, qui est extrêmement savant, qui a poussé les expériences musicales très loin, au point de jouer avec un saxophone en plastique, qui a fait beaucoup rire de lui. Et donc il enregistre en 1960 un disque significatif et qui porte le titre de « Free Jazz ».
Thank you.
Free Jazz, donc enregistré le 13 décembre 1960, au cours d'une session qui réunit, outre Ornette Coleman au saxophone alto, Don Cherry pardon, à la trompette de poche, pocket trumpet, toute petite, ce que Boris Vian appelait la trompinette, Charlie Adan à la contrebasse, Billy Higgins à la batterie, et ça faisait l'objet d'un album que l'on peut trouver d'ailleurs encore, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle « Change of the Century », titre significatif, « On change de siècle ». Alors, je vais vous lire un point de vue sur ce... Pour tout vous dire d'ailleurs, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé en matière de jazz. Alors, soyons clairs, et je vais vous lire un avis sur cet enregistrement contemporain, donc d'un musicien contemporain d'Ornette Coleman. Alors voilà, une foule de jeunes musiciens m'ont sauté dessus quand j'ai descendu Ornette. Ils m'ont traité de vieux con. Moi, je n'aimais pas leur manière de jouer, en particulier Don Cherry avec sa petite trompette. À mes yeux, ils jouaient un tas de notes avec un air très sérieux et les gens adoraient, ils adoraient ça parce que si on était suffisamment malin, on peut leur faire adorer tout ce qu'ils ne comprennent pas. Les Blancs surtout. Ils sont comme ça, surtout quand un Noir fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas reconnaître qu'un Noir peut faire un truc qu'ils ne connaissent pas. Alors ils courent dans tous les sens en criant « c'est génial » jusqu'à ce qu'autre chose débarque. Alors qui, en 1989, a eu ces propos aussi durs? Eh bien, Miles Davis. Et donc, je m'inscris tout à fait dans cette lignée, dans le point de vue de Miles Davis, au sujet de ce jazz atonal, dont on peut dire qu'il voulait s'inscrire dans l'art contemporain, puisque ce premier album de Ornette Coleman, comme illustration, avait un tableau de Jackson Pollock. Alors, qui mieux que Pollock pouvait incarner en 1960 la pointe extrême avancée de l'art contemporain. Il est probable, et en tout cas c'est ma thèse, que cette musique-là a donc éloigné du jazz bon nombre de ses amateurs qui étaient attachés à une forme non pas plus traditionnelle, mais plus audible, qui considère qu'il y a un thème et qu'on peut improviser tout autant, tout ce qu'on veut, autant qu'on le veut, mais que l'auditeur a besoin quand même d'un tout petit fil conducteur pour s'y retrouver. Voilà, c'était ma page agressive pour cet épisode. Je ne voudrais pas terminer d'ailleurs cet épisode sans signaler que 1960, c'est la mort et le décès d'un très grand homme, un philosophe, un écrivain, Albert Camus, qui disparaît après un accident de voiture avec Robert Gallimard, le frère de l'éditeur, dans une voiture Facel Vega. Parce que Albert Camus, comme tous les gens de cette génération des années 60, eh bien, aimait beaucoup la vitesse. Robert Gallimard aussi. C'était son petit côté James Dean à Albert Camus. Je vous propose d'écouter une archive de son décès et de ses obsèques.
Lourmarin, petit village de Provence posé au milieu des oliviers, a fait aujourd'hui de touchantes obsèques à Albert Camus, prix Nobel de littérature. C'est dans ce petit village entre deux fontaines à l'ombre du vieux clocher que Albert Camus avait découvert sa maison, son refuge comme il l'appelait. Et ce matin, tout le village s'est joint au cortège des parents, des amis. Entre Lucien Camus, frère du disparu, et Gaston Gallimard, Madame Albert Camus. Il y avait là d'humbles paysans mêlés aux personnalités, à Emmanuel Robles, Jules Roy, Jean Grenier, René Char, Gabriel Audizio, Roger Maurice. Porté par les hommes du village, Albert Camus a traversé une dernière fois cette campagne qu'il aimait tant. Albert Camus, prix Nobel de littérature, disparaît, son œuvre demeure. Et à l'heure où le monde des lettres pleure un grand écrivain, le petit village provençal de Lourmarin évoque le souvenir d'un de ses concitoyens, Albert Camus, homme simple et juste, qui était devenu un ami.
Et donc, je rappellerai que pour boucler cet épisode avec le début de l'émission, eh bien, Albert Camus était né en Algérie, bien entendu, et donc avait un amour extrême pour ce pays, a été totalement déchiré par les événements qui s'y sont passés. Et donc, je ne saurais trop vous conseiller de relire L'été, qui est un texte lyrique sur ce pays. Et puis, bien sûr, L'homme révolté. Alors, plutôt que de commémorer, lisons et relisons Albert Camus. Ainsi s'achève cet épisode de 1960. Un autre est en préparation, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.